Hello, salam à tous, que la paix soit sur vous. J'espère que vous allez bien. En vrai, je suis en pleine randonnée au Wadi Shab et je me fais une réflexion parce que je suis en train de voir des gens qui sont bergers, qui s'occupent d'ânes, qui s'occupent de moutons, d'animaux. Et c'était le premier travail à mon père quand il était dans son village. Il vient d'un petit village à côté de Bougie en Algérie. Et en fait, en même temps, ça me fait relativiser sur la vie. Bien que je ne sois pas dans une approche victimaire ou quoi que ce soit, là n'est pas mon propos. C'est plutôt, je me dis, en fait, on a été mis sur terre. Et là, par exemple, je suis en vacances et je me stresse pour des choses tellement futiles et qui devraient même pas exister. Le travail, l'argent, les relations. Qu'elle soit amicale ou autre, et plein d'autres choses stressantes qu'il y a dans mon esprit, des tout doux, des voilà, enfin bref, des problèmes et tout. Et je me dis, mais c'est tellement futile, pas parce que je les vois eux, mais plutôt parce que je vois l'environnement où je suis, c'est-à-dire au milieu, mais vraiment des montagnes. Là, je vous parle, je vais prendre une photo au moment où je vous parle. Je suis au milieu de rien, de rien. Hop, j'ai pris ma photo. Et en fait, je me dis au commencement, subhanallah, il n'y avait rien. Il y avait des montagnes. Il y a beaucoup de bruit d'eau là. Il y avait des montagnes, il y avait de l'eau, de la végétation, des animaux, des hommes qui ont subvenu à leurs besoins par plusieurs moyens, divers moyens. Et aujourd'hui, on a les médias, on a la politique, on a le stress, on a les choses anxiogènes, on a les problèmes, on a le capitalisme, on a les inégalités. On a tellement de choses qui nous rendent ouf. Et là, franchement, au milieu d'ici, je respire et je me dis, en fait, tout ça, on s'en fout complètement. Et en même temps, je me dis, bah c'est irréaliste, Ania, puisque tu vas rentrer et ensuite la vie continue. Et malheureusement, tu es obligé d'être confronté à ça. C'est pour ça que, en fait, pour moi, l'idéal et l'objectif, c'est pas d'occulter les problèmes, c'est pas d'occulter la vie, c'est pas de sortir du monde réel, c'est pas de vivre en autarcie. C'est impossible, on n'a pas été élevé pour ça, et d'ailleurs on n'a pas été conçu pour ça. Allah, il nous dit dans le Coran qu'il a fait des tribus avec différentes cultures, avec différentes langues, pour qu'on s'entreconnaisse. Et il nous enjoint à avoir des plans, à avoir des objectifs, quels qu'ils soient. Que ça soit un berger qui soit responsable de son troupeau animalier, ou que ça soit un berger métaphoriquement, qui est responsable de sa famille, ou qui est responsable de ses amis, ou qui est responsable de ses proches, ou qui est responsable de ses projets. Il faut faire au mieux et il faut essayer d'être ancré dans cette réalité. Donc où est la sagesse dans ça? La sagesse dans ça, ce que je me dis, c'est Ania, tu ne peux pas t'extraire de la réalité. Tu vas rentrer et la vie va suivre son cours. Là, je suis dans une randonnée, vous imaginez pas. Et la vie va suivre son cours. Mais ça m'aide, en fait. C'est comme un journal intime, sauf que c'était dans mes pensées. Et le fait que ça soit à l'oral, ça me permet, moi aussi, d'affiner ma réflexion et de réfléchir. Donc, l'objectif, l'idéal, la quête, c'est la sagesse, en fait. C'est la sagesse d'accepter ce qu'on peut changer. C'est le tawakkul, c'est la confiance en Dieu, d'où ma recommandation que j'avais eue, je ne m'en accorde pas les fruits, d'une étudiante, d'une savante, les Dua to God List, pour ceux qui débarquent ou qui ne me suivent pas sur Instagram. En fait, au début de la journée, vous avez votre to-do list. Mon père, je le saoule avec ça. Dès qu'il me demande un service, je lui dis oui, je mets sur ma to-do. Après, il m'appelle, il me dit la to-do, la to-do. dit, c'est quoi la to-do? Tu vas faire ce que je te demande ou pas? Je lui ai dit oui. Donc, les deux hâtes ou God list, c'est justement le fait, au début de la journée, au début de la semaine. Et là, on va voir le juste milieu entre les causes et la confiance en Dieu. Au début, vous planifiez. Vous faites vos plans, vous faites votre organisation, vous faites votre to-do, les actions que vous avez à faire, des plus minimes aux plus grandes. Donc, que ça soit dans votre travail, dans votre ménage, dans votre foyer, dans votre spiritualité, dans votre santé, dans votre nutrition. Et en général, bon, c'est plutôt pour le travail, on va pas se mentir. On fait notre petite to-do le matin. Et je me souviens que quand j'étais salariée, j'avais des meetings au début qui me stressaient à mort. Je suis de nature très anxieuse et j'ai très très peur de mal faire. Je sautais dans l'eau. J'ai très très peur de mal faire. Donc, ça m'a énormément aidée. J'arrivais au travail et bien sûr, petit conseil d'objectif et d'organisation, on prépare sa to-do la veille pour le lendemain. Comme ça, quand on arrive au travail ou quand on démarre notre journée, peu importe que ça soit dans le monde pro ou pas, on a exactement ce qu'on doit faire dans la journée. Et la veille, on a fait le tri, on a fait le ménage, on a vu ce qui nous restait à faire. Parfois, on n'a pas fini des choses dans notre journée, donc il faut prioriser. Les choses urgentes, les choses que vous pourrez remettre au lendemain et le reste quoi. Vous avez un aperçu de votre journée pour le lendemain, très très important. Vous allez le matin prendre cette to-do et demander à Allah de vous faciliter chaque chose de votre to-do. Ya Allah, ô Dieu, ô mon Seigneur, s'il te plaît, facilite-moi et ça, et ça, et ça, et ça. Donc moi, ça donnait Ya Allah, par ta noble générosité, tu es celui qui facilite, tu es celui qui répond à nos demandes. S'il te plaît, facilite-moi mon meeting du jour, fais que je puisse bien m'exprimer, comme tu as permis à Moussa, que la paix soit sur lui, de bien s'exprimer. Dénoue ce nœud dans ma langue, mais surtout dans mon cœur. Aide-moi à apaiser cette anxiété. Aide-moi à la faciliter. Parce qu'en fait, il nous dit aussi dans le Coran qu'il a créé l'âme, qu'il a créé l'homme de nature anxieuse. L'anxiété, c'est le fait d'avoir des considérations pour le futur, de stresser pour des choses incertaines, de regretter des choses par rapport au passé. En fait, de ne pas vivre dans le moment présent, finalement. Et de l'aborder avec paix, avec sagesse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit autant de choses en lien avec, entre guillemets, oui, la spiritualité au sens global, sur l'art du moment présent, mindfulness, le fait d'avoir la conscience de ce qui se passe et de ne pas en juger quelque chose. D'ailleurs, moi, j'écoute souvent des podcasts pour m'endormir. Ça m'aide énormément. Je vous conseille Somnifère, par exemple. Il y en a d'autres, des méditations, etc. Et souvent, ce qu'on va nous conseiller, c'est justement de ne penser à rien et de se concentrer sur nos sensations. Ma copine Imène, je pense, en parlerait mieux que moi parce qu'elle aime bien ce sujet de mindfulness. Et on va vous dire, pensez juste à votre respiration. Pensez à votre position de votre corps sur le lit. Analysez et observez vos sensations. Analysez l'air qui sort par votre bouche, qui rentre par votre nez, analysez sa température. En fait, connectez-vous à vos sens et à vos émotions sur le moment présent. Donc, je commence mes journées avec les doigts ou God list et ça m'aide énormément à apaiser tout ça. Parce qu'on se dit, moi j'ai fait les causes. Oh, il y a un petit âne. Alhamdoulilah. Vraiment, c'est... La création, c'est fou. Hein, quand on y pense. Bien. Ça, c'est... C'est un acte spirituel, le voyage. Vraiment. Déjà parce que c'est un repos pour l'âme. Il est en train de boire. Déjà parce que c'est un repos pour l'âme. Donc ça permet de prendre soin de nous. Et le prophète, que la paix et la grâce a sur lui, dit que notre corps a un droit sur nous, comme énormément de choses. Notre famille a un droit sur nous, etc. D'ailleurs, c'est une de mes motivations, par exemple, pour le sport, le fait que notre corps a un droit sur nous. Notre âme a un droit sur nous. Notre âme, il faut la ménager, parce que le moment où elle explose, le moment où on ne prend pas soin d'elle, on ne peut plus avoir une relation pérenne avec nous-mêmes, on ne peut pas avoir une relation pérenne avec les autres, et on ne peut pas avoir une relation pérenne, verticale, avec le divin, avec Dieu. Donc, on fait les causes, on essaye de faire au mieux. Et là est l'art de l'ihsan, on y vient. Et l'ihsan, c'est le fait, si vous avez écouté mon podcast sur cette notion, de chercher le beau, de chercher le bien, de chercher le perfectionnement. On ne l'atteindra pas, forcément. Allah, il nous a envoyé le prophète, que la paix et la grâce soit sur lui, comme une miséricorde pour les mondes. Et il est le modèle idéal. Vous avez en lui un modèle idéal à suivre, un modèle à suivre, dans l'essence, ce qui est dit. On doit tendre vers son comportement. On doit tendre vers les causes qu'il a fait, malgré le fait qu'Allah était au contrôle de tout. Le prophète, il a souffert du fait que certains ne se convertissaient pas à l'islam. Il était mal, il n'endormait pas la nuit, il faisait des prières de nuit. Il était très, 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 très triste. Ce qu'on appellerait aujourd'hui la déprime. Je ne dirais pas dépression, mais il déprimait un peu. D'ailleurs, c'est là qu'on voit que les émotions, elles ont le droit d'exister. Il n'y a pas d'émotions négatives. Il y a des sentiments, des ressentiments à l'égard de certaines choses. Mais il faisait tout son possible pour arriver à ce but. D'accord ? Et pour autant, Allah, il lui a envoyé un verset qui dit, en fait, dans l'essence, que le prophète, il n'est responsable de rien, que Allah, s'il avait voulu les convertir, il l'aurait fait, car tout repose sur sa volonté. Et donc, il lui dit, ne t'afflige pas, ne déprime pas. En fait, repose ton âme de tout ça, parce qu'au final, je ferai ce que j'ai décidé de faire. Et c'est là, en fait, la beauté de cette nature finalement anxieuse que nous devons polir pour arriver à ce contrôle de nos émotions, de nos sentiments, pour pas que ça ne devienne handicapant pour nous. Donc pour ça, on va invoquer Dieu, comme le faisait le prophète, que la paix et la grâce soient sur lui. On va reléguer nos actions à Dieu et on va se dire finalement, moi je fais de mon mieux, je fais les causes, j'ai préparé, j'ai planifié. L'islam, elle nous apprend à être des stratèges dans nos affaires, à user de pédagogie envers nous-mêmes. Et ça sous-entend de nous connaître. Et ensuite, je demande à Dieu de me faciliter. Je demande à Dieu de m'accorder telle chose si c'est un bien. Et un bien, ça ne veut pas dire nécessairement quelque chose qui va vous faire plaisir. Et ça aussi, c'est une subtilité importante. Un bien, ça peut être juste quelque chose qui va vous polir. Il y a le bruit de l'eau, je suis désolée. Je ne sais pas si ça vous embête ou pas. Mais c'est la nature. Donc, un bien n'est pas nécessairement quelque chose qui vous fera plaisir. Ce qui fait plaisir à notre âme n'est pas forcément un bien, on le sait, dans l'immédiat. Souvent, et surtout, souvent on va faire quelque chose qui nous fait plaisir et on va vite se rendre compte que finalement, c'est un fardeau. Et c'est quelque chose qui va à terme nous desservir. Un bien, ça peut être quelque chose qui va nous éprouver, qui va nous apprendre des choses, qui va aussi peut-être servir à un autre. Peut-être que le bien ne va pas résider dans votre vie à vous, c'est-à-dire spontanément, directement. Peut-être que ce bien-là va ruisseler sur quelqu'un et que cela sera compté pour vous au moment où on rencontrera Dieu. Donc, ce juste milieu entre tawakkul et cause, il est important. Et pour revenir à ce qu'on disait au départ, c'était on ne peut pas s'extraire de la réalité. Ce qu'on peut faire, c'est essayer d'acquérir cette sagesse, d'acquérir cette vertu. C'est pour ça qu'on prend souvent comme exemple les gens justement qui n'ont entre guillemets pas grand-chose d'un point de vue matériel, mais qui ont beaucoup de choses d'un point de vue psychologique, spirituel et émotionnel, parce qu'ils vont être justement dans cette approche intérieure de remise confiante. Le tawakkul, c'est ça, c'est la remise confiante en Dieu. Avec conscience, avec profondeur, avec qualité. Bien sûr, c'est super dur. Et je me fais d'abord le rappel à moi-même. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas automatique. Donc c'est justement pour ça qu'il faut se rappeler de cette approche. Il faut se rappeler que rien n'est entre nos mains. Et je pense du coup qu'on a tous eu, enfin en tout cas je ne sais pas pour ceux qui viennent, enfin pour ceux qui ont des parents qui viennent d'un autre pays ou eux-mêmes qui viennent d'un autre pays. Mais j'ai souvent eu cette phrase que je disais à mon père, où je disais j'aimerais trop aller dans notre village au Bled. Moi je suis dans un village à côté de Béjaïa, comme je vous ai dit, dans la montagne, face à la mer. Je dis j'aimerais trop aller dans notre village et je vis comme ça 2 ans en autarcie, avec mes poules, mes moutons et tout, et mon petit potager, et je calcule rien, personne. Juste, je me repose. Et bon, je sais que je tiendrai en vrai 1 jour et demi. Parce que vous savez que moi, hors Paris, c'est compliqué. Mais ça témoigne en fait de cette volonté de faire des pauses mentales. Ce que j'appelle moi des pauses mentales. Toujours besoin de ma petite pause mentale dans la journée. Pour justement décompresser, faire le vide et tout. Et parfois la vie, elle est tellement, tellement éreintante qu'on a besoin d'une pause mentale dans la vie elle-même, avec une tranche de vie. Et puis, justement, si on reprend la réflexion d'avant, eh ben on se rend vite compte que faire une pause de 2 ans, par exemple, d'1 an ou que sais-je, parfois, bien sûr, ça permet de recharger les batteries. Ça, je dis pas le contraire. Je sais qu'il y a des gens qui prennent du repos pendant 6 mois, par exemple. Et ça leur permet de s'introspecter, de faire le vide, ensuite d'opérer des changements dans leur vie, etc. Et ça, c'est top. Mais il faut pas oublier qu'on reviendra à la réalité. On sera ramené à notre vie. Bon, à part si... On va parler en général, à part si on est animé par... comme ma sœur, vivre dans un éco-village... et tout ça, mais on va retourner à la vie. Et donc finalement, bah pourquoi la fuir? Je pense qu'il faut plutôt l'affronter. Je pense qu'il faut développer toutes les qualités qui permettront de l'embellir finalement, parce que cette vie là elle n'est pas faite pour être une tare. Allah il nous dit dans Sourate Taha: je n'ai pas fait descendre le courant pour que tu souffres, pour que tu sois malheureux. Et le Coran, dans sa sémantique, ça veut dire beaucoup de choses. Donc justement, on pourrait se dire qu'Allah, il nous a pas fait, nous a pas créé et mis sur terre pour qu'on soit malheureux, pour qu'on souffre, pour qu'on soit épuisé par cette vie. Alors bien sûr, il y a des choses fatigantes. Bien sûr, Allah, il nous dit quand même qui nous a cercré pour une vie de lutte. Et une lutte de quoi? Pas une lutte, à mon sens. Puis bien sûr, il doit y en avoir plein. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir ces moments avec le Coran. Le Coran, il peut nous faire écho à différents moments de notre vie, de plein de manières différentes. Le Coran, c'est un voyage. Chacun va le comprendre différemment. Et c'est bien de se l'approprier. C'est bien de ne pas toujours attendre que quelqu'un vous explique des choses par rapport au Coran. Le Coran est la parole d'Allah qui l'a révélé. Et ce Coran-là, il est adressé à toute l'humanité, à toute la création. Vous lisez un verset une fois et vous en comprenez une chose. vous le relisez un an après et vous en tirez une autre chose. Quelqu'un le lit, ça peut ne pas le marquer car ça ne fait pas écho sur le moment à sa propre vie. Et une autre personne, ça va complètement bouleverser sa manière de voir les choses. Alors bien sûr, l'arabe, notamment l'arabe coranique, qui est un arabe particulier, n'est pas à notre portée, n'est pas à la portée de tous en tout cas. Donc ça peut être aussi intéressant parfois de se rapprocher d'exégèse, de se rapprocher de tafsir. Moi, ce qui me passionne le plus, c'est la linguistique coranique. Parce que justement, on va plonger dans les mots et on va extraire énormément de sens de plein de choses. Mais même sans ça, on peut méditer. On peut essayer de comprendre en quoi le verset que je lis fait écho en moi. En quoi le verset que je lis peut impacter ma manière de voir les choses. Et donc, nous vous avons certes créé pour une vie de lutte. On le sait que un des plus gros jihad, une des plus grosses luttes, c'est la lutte intérieure. La lutte contre l'ego. Et notamment contre ce défaut-là, qui est un défaut qui nous fait du tort à nous-mêmes, qui est de s'inquiéter excessivement, qui est de... mais également tous les défauts qui façonnent l'humain, qui font trembler souvent nos relations, qu'elles soient intra ou interpersonnelles. Donc, on a été créé pour cette lutte, enfin, c'est-à-dire c'est une conséquence de notre création. On a été créé dans une vie de lutte contre nous-mêmes, contre nos penchants. Et finalement, notre principal ennemi, ce n'est pas, comme certains pensent, le shaitan ou les autres, c'est vraiment nous-mêmes. C'est nous-mêmes, on n'a pas besoin des gens, on n'a pas besoin des chayatines pour se faire du tort. Et ça, je pense qu'on le voit tous et toutes dans nos vies. Alors, je ne sais plus où a commencé cette pensée. Enfin, si, je sais, mais je ne sais pas exactement comment boucler la boucle. Ce que je sais, c'est que là, tout de suite, je me dis que je vois des choses qui sont incroyables et qui m'émerveillent énormément, qui me font me poser énormément de questions aussi, on ne va pas se mentir, parce que moi, je suis une personne qui réfléchit beaucoup sur le sens des choses. Mes proches disent toujours, des fois, il n'y a pas de logique, Ania, des fois, il n'y a pas de logique. Moi, j'ai toujours cherché, j'ai toujours me posé des questions. Et là, bien sûr, au milieu de rien, mais finalement de tout, de la faune, de la flore, mais il n'y a pas un chat, il y a des montagnes. En fait, quand vous voyez la grandeur de ça, la grandeur des montagnes qui sont au-dessus de la terre, au-dessus des plaines, bah forcément, tu penses au relief. Tu te dis qu'à certains endroits, il y a des trous, à certains endroits, il y a du plat, à certains endroits, il y a des montagnes qui sont érigées. Il me semble qu'il y a un verset aussi par rapport aux montagnes que je trouve beau, mais que j'ai pas en tête. Oh, il y a des bananes, un bananier. Incroyable, vous voyez ça, c'est... En fait, je me dis, Allah, il a fait un truc... il a fait une création, franchement. On est d'accord que personne n'aurait pu y penser à ça. Là, il y a des fruits en plein milieu de vallées. En plein milieu du monde. Et ce monde-là, il est en plein milieu du noir, dans l'espace. Et c'est pour ça qu'on pourrait dire que c'est un peu anxiogène de penser ça. Mais moi, c'est la chose qui me fait le plus relativiser dans la vie. À chaque fois que je stresse ou que quelqu'un stresse, je me dis, on est sur un caillou au milieu du rien. Vous voyez, de loin, les satellites, ils ne voient même pas un gramme, un millimètre de quelqu'un. On n'est rien finalement. Et en même temps, pour Dieu, on est tout. C'est-à-dire, tout à chacun, on a notre part entière dans sa conception. Ça, c'est aussi une leçon très importante. Dieu ne fait rien par hasard. Il ne sait pas... il n'a pas pensé un matin. J'essaye de vous parler comme si je me parlais à moi-même. Donc, je sais pas, peut-être que j'emploie des mots qui sont pas bons pour parler de Dieu ou que sais-je, mais vous comprenez l'idée. L'idée qui est que j'essaye de parler le plus simplement possible. Donc, Dieu ne s'est pas réveillé un matin, Dieu n'a pas pensé. Puis d'ailleurs, en fait, je parle très bien puisque je fais la négation. Donc, Dieu ne s'est pas réveillé un matin, Dieu n'a pas pensé à créer comme ça une fille ou un garçon par hasard. Non, Dieu, il a choisi chaque objet de sa création avec minutie. Chaque étoile, chaque fourmi. Chaque chose a un sens. Chaque âme a un intérêt auprès de Dieu. Un intérêt, pas pour lui. Un intérêt, c'est-à-dire qu'il a de l'intérêt pour chaque partie de sa création. Et comme il ne fait rien par hasard, vous avez cette promesse-là qui est que vous méritez votre place. Vous n'êtes pas le fruit d'une erreur fortuite. Non. Vous êtes un objet de la création qui a été choisi par Dieu. Donc, vous êtes estimé, vous êtes estimable et vous ne servez pas à rien. Et vous avez votre place, en fait, dans le monde. Donc, prenez-la. Prenez cette place. Allah, il a mis un potentiel en chacun de nous. Allah, il a mis une vocation en chacun de nous. Ce potentiel-là, ce n'est pas forcément créer Tesla. Loin de là. Parce que ça dessert plus le monde qu'autre chose. Ce potentiel-là, ça peut être la faculté d'avoir une intelligence émotionnelle élevée, par exemple, pour pouvoir écouter votre famille, la soulager de ses maux. Peut-être que ça va être votre extraversion incroyable qui vous permet de pouvoir aller chercher les informations, de chercher plein de choses qui vont servir pour des causes. Pouvoir discuter avec des gens dans le besoin dehors ou autre. Voilà, je vous donne des exemples que j'ai en tête comme ça. Mais chacun de nous a une place. Chacun de... Ce que vous venez d'entendre, c'est moi qui tombe dans l'eau. Quand je vous dis que c'est le podcast de l'extrême, je vous mens pas. Mais je trouve que le bruit, il est trop beau. Donc je le laisse. J'aurais pu revenir en arrière. J'aime trop le bruit de l'eau. C'est si apaisant. D'ailleurs, vous avez vu comment la nature apaise le cœur. Et ça, c'est prouvé aussi scientifiquement. Je vous conseille le livre « Cerveau et nature ». Marcher dans la forêt, entendre le bruit des oiseaux. C'est pour ça que beaucoup de méditations, quand vous cherchez sur YouTube, c'est des bruits de nature. De la nature environnante. Donc du coup, donc je reprends, chacun de nous a une place. Et personne ne doit se dire qu'il n'a pas à être là, qu'il n'est pas digne de l'amour de Dieu parce que Dieu nous aime inconditionnellement, quoi qu'on fasse. Allah, il a de la rahma pour toutes ses créatures, pour toute sa création. Donc prenez votre place, soyez fiers de qui vous êtes, soyez fiers de vos qualités, soyez fiers de vouloir travailler sur vos défauts et essayez de comprendre que vous n'êtes pas là par hasard. Je n'ai pas d'autre manière de le dire, mais à partir de ce moment-là, je trouve que ça motive de ouf quand même. Et vous voyez, là, j'avance dans ma réflexion, tout ça, je ne l'avais pas en tête. Et là, je suis en train de me dire à moi-même, là, t'as vu, tu es stressée pour la suite. Tu te dis, mais ces montagnes-là, elles sont magnifiques. Et en même temps, c'est quoi le sens de tout ça? Quand je vous disais, on est sur un caillou au milieu du rien. Et en même temps, là, je me dis, mais dans ce rien, dans ce tout, dans ces gigantesques paysages, des plus petits, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, Dieu, il a décidé que tu sois là. Déjà, tu peux rien. Donc, tu vas prendre cette place. Opère des transformations dans ta vie s'il y a des choses qui ne te plaisent pas. Essaye de travailler sur les mots qui animent ton âme. Essaye de moins stresser. Je ne sais pas comment, mais trouve une solution. Et dis-toi que tu as des choses à faire sur Terre, puisque sinon, tu ne serais pas là. Tout simplement. Je suis contente, en tout cas, d'être sortie de ma zone de confort. Ça faisait un moment que j'avais plus voyagé toute seule parce que j'avais l'impression d'être fatiguée, d'avoir plus d'énergie pour faire ce genre de choses. Non en lien avec l'introversion parce que j'aime bien mes moments seuls Et je sais d'ailleurs que j'ai eu beaucoup de questions sur le fait de faire des choses seules, de voyager seule, etc. Et je vais en faire un podcast. Donc je pense que ça intéressera beaucoup de gens. Mais j'ai eu du mal à me remotiver. Parce que je me disais, est-ce que j'aurais les épaules pour assumer les problèmes, justement. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a tellement qui se sont accumulés que... Mais pour tout le monde, hein. C'est pas que dans ma vie, j'ai pas des problèmes de ouf. Mais on accumule tellement qu'on a l'impression d'avoir plus d'énergie mentale, de n'avoir plus d'énergie mentale, de n'avoir plus de capacité de résilience. Et avec le temps, elle diminue. Et c'est moche à 26 ans de se dire ça. Enfin, d'ailleurs, à n'importe quel âge. Mais je pense qu'on sous-estime parfois nos limites et nos capacités. Et justement, sortir de sa zone de confort, comme je le dis tout le temps, c'est inconfortable au début. Les premiers jours d'un changement, c'est un choc, hein. On a l'impression qu'on ne va jamais y arriver. Et puis finalement, on s'y fait. C'est pour ça que je dis tout le temps à tout le monde, tout passe avec le temps. On a l'impression que c'est une phrase bateau, mais pas du tout. Tout passe avec le temps, je peux vous assurer ça. Pour tout. Et si c'est pas dans cette vie, bah, ça sera après. Cette tranche de vie, elle est en même temps tout et rien. C'est ce que je dis depuis le début. C'est un peu drôle. Donc voilà, ouais, je suis un peu contente. Je suis contente. Parce que du coup, je trouve que mes capacités à faire ce genre de choses sont finalement là. Et ça me rassure, et ça me motive, et ça me fait gagner en assurance, en confiance en moi. Je me dis, ok, Agnès, t'es forte. Tu l'as fait, et tu peux le faire, et voilà. Arrête de croire que t'es nulle, arrête de croire que tu peux plus rien faire, arrête de croire que t'es fatiguée. Go. Et c'est cool, parce que ça veut dire que la prochaine fois que je voudrais faire quelque chose, je me rappellerai de cette expérience. Et si ça s'était mal passé, ou que voilà, ça aurait été aussi bien. Parce que justement, comme je dis, sortir de sa zone de confort, c'est inconfortable. Ça permet de comprendre beaucoup de choses sur nous. Je le dis souvent que, par exemple, j'ai pas du tout bien vécu mon expatriation à Dubaï. Mais si c'était à refaire, je le referais 1000 fois. Pourquoi ? Parce que c'est en 2 ans un gain de 5 ans de vie en apprentissage de soi. Et ça n'a pas de prix. Donc c'est pour ça qu'il faut, vous aussi, je dirais pas vous forcer, mais réfléchir à ces choses que vous avez peut-être envie de faire, mais que vous ne faites pas, par peur, et vous lancer, tout simplement. Et je vous jure que ça vous fera beaucoup de bien, ça vous fera énormément plaisir, et vous serez fiers de vous, envers vous-même. On n'a pas besoin que les autres soient fiers de nous. On n'attend pas de validation des autres. On s'auto-valide. Et voilà, je peux vous le dire, je suis fière de moi. Pour certains, ça peut être rien. Mais pour moi, c'est beaucoup. Parce que, voilà, la vie, comme je disais, elle est un peu fatigante. Et c'est toujours le truc de se dire, est-ce que je vais gérer toute seule ? Quand à des moments, je serai fatiguée. Et puis finalement, ça roule. Et vous aussi, ça va rouler. Ça va rouler, tester. Voyez ce que vous avez envie, en fait, de tester. Pour voir si ça vous plaît. Ou pour confirmer que ça vous plaît pas. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit podcast au milieu de la nature vous a plu. Et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Je vous fais des bisous. Si vous voulez suivre mes aventures... Mon Instagram, c'est agnia.tairi. Et voilà.